Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme.
Le cheval.
Une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie. Avec aujourd'hui, vous l'avez entendu, Jean-Claude Adelin.
Bonjour à tous.
Alors Jean-Claude, en forme pour une chevauchée radiophonique de 25 minutes ?
Moi toujours.
Voilà. Alors, pour commencer, le messager du cheval veut d'abord saluer les 3 millions de privilégiés français qui ont eu l'indécence de se passionner pour un sport de mauvais goût, l'équitation. Enfin, Jean-Claude, à quoi pensions-nous en choisissant ce sport ? En premier lieu, un cheval pète, c'est connu. Franchement, est-ce distingué d'enfourcher un animal qui ne sait pas contrôler ses sphincters ? Avons-nous pris en compte également les conséquences écologiques désastreuses que le gaz méthane provoque sur l'environnement ? Avec, il faut bien l'avouer, la complicité active des éleveurs de chevaux qui, plus de 6000 ans après la domestication de l'animal, n'ont toujours pas réussi à se demander s'ils veulent vraiment à créer des montures génétiquement modifiées munies au bon endroit de filtres à particules et à odeur. Alors, question, est-ce de l'inconscience ou pire de l'incompétence ? On peut aller jusque-là. Et la question, effectivement, est légitime. Un scandale, en tout cas, pour le messager, que le messager du cheval, bien sûr, n'hésite pas à dénoncer. Et puis Jean-Claude, faisons attention à notre langage. Restons simples. Pourquoi raconter à nos amis, en sirotant un verre de scotch de 30 ans d'âge, bien au chaud et lascivement étendu sur les moelleux coussins pourpres à pompons d'or de ces somptueux clubhouses qui, nous le savons, sont l'apanage et le privilège de la totalité des centres équestres en France? Pourquoi donc raconter que notre folâtre destrier a mal interprété l'action subtile de nos éperons princes de Galles et nous a déséquilibrés? En temps de crise, cela devient carrément de la provoque. Un parfum, même ambigu, d'ancien régime, franchement assez malvenu. De grâce, soyons sémantiquement corrects. Nous gagnerions beaucoup dans l'opinion publique en expliquant que notre connard de bourrin nous a balancé un coup de cul et que nous nous sommes cassés la gueule. Ça serait plus simple. Pour les moins privilégiés, des solutions existent aussi. On va pas les laisser sur le bord de la route. Alors qu'ils ne se laissent pas abattre, il leur suffirait de transformer la grande niche fiscale annoncée en petite. Comment ? Simplement en remplaçant leurs chevaux de selle par des falbalas qui toisent environ 60 cm au garrot, ces petits chevaux mexicains, d'accord ? Et ils auraient tout à y gagner. De cette manière, ils pourraient continuer à pratiquer l'ensemble des disciplines équestres, mais à pied, en portant le petit animal sur le dos. Ce ne sont donc plus eux qui monteraient à cheval, mais les falbalas qui monteraient à homme et qui, par conséquent, seraient redevables de la taxe. Acceptons donc avec reconnaissance, mais aussi avec orgueil, le projet de triplement de la TVA qu'auront à supporter les clubs d'équitation et par ricochet, les éleveurs de chevaux de selle. Très sincèrement, comment ne pas se réjouir en voyant contrecarrer les pernicieux efforts des élateurs de l'équitation pour tous qui sévissent dans notre pays depuis une trentaine d'années. Cela, il y en a marre. Le messager du cheval ne va pas bouder une aussi bonne nouvelle. Et pour nous, cavalières et cavaliers, voilà à nouveau appliqué au sport équestre le principe en usage dans les machines à laver. Et dans ce cas, les machines à rincer. Ne jamais mélanger les torchons et les serviettes. Alors maintenant, on va aller... Quelque chose à dire ?
Beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais effectivement, il faudrait dire aussi que le steak de cheval va augmenter de 30 à 40%. Ça, c'est quand même dommage.
Oui, mais attends, tu as des anti-hypophages qui t'écoutent là.
Ah oui ? Bon, ben alors je sais pas quoi dire, je sais pas, je sais plus. De toute façon, l'homme, il a toujours besoin de faire des choses qui sont contre nature et pourquoi pas éliminer la nature, hein ? À quoi elle sert ? De toute façon, elle sert pas à grand-chose. Alors on peut peut-être vivre sans la nature, sans les animaux, sans les chevaux, sans les cochons, sans les vaches, sans les oiseaux, mais si on vit avec eux, c'est quand même mieux.
C'est quand même mieux. Alors là, on va faire un petit retour en arrière à l'époque où les chevaux étaient vraiment au cœur de la société et des sociétés, en particulier en Europe, bien sûr. Donc, les chevaux des cavaleries militaires utilisées dans la seconde moitié du Moyen-Âge étaient lourds, lymphatiques et tenaient beaucoup plus du cheval de trait que les chevaux de selle que nous avons l'habitude de monter aujourd'hui. Et contrairement aux idées reçues, les charges de cavalerie se faisaient au trot et très exceptionnellement au galop. En fait, les chevaux avançaient et chargeaient au trot. Alors, le cavalier, on le sait, utilisait un mors à branches longues qui avait un effet de levier extrêmement puissant, ainsi que des éperons aux molettes acérées qui labouraient jusqu'au sang le ventre du cheval. C'était pas gentil. Et l'expression « piquer des deux » exprime bien cette violence. Hein, cette expression que l'on utilise toujours aujourd'hui pour dire on va aller vite ou on va plutôt demander à quelqu'un d'aller vite. Alors la redécouverte des textes de l'Antiquité, en particulier ceux des Grecs que les Arabes avaient collectés, traduits et commentés parvint en Europe occidentale. Elle sera à l'origine d'un formidable onde de choc qui changera profondément notre façon de comprendre le monde. C'est la Renaissance qui débute en Italie au XIVe siècle et en France un siècle plus tard, au XVe siècle. Une révolution qui permettra aux intellectuels de s'émanciper des dogmes imposés jusque-là par l'Église, de les rediscuter. Aucun secteur de la pensée n'y échappera, que ce soit la médecine, la philosophie, les mathématiques, les sciences de la matière, etc., etc., etc. Mais également les différents arts, hein, dont l'équitation qui prendra désormais le nom d'art équestre. C'est là où on voit l'équitation qui prend le nom d'art équestre. Alors on abandonne progressivement donc le cheval lourd du Moyen-Âge pour le remplacer par des chevaux plus légers. C'est ainsi que le cheval barbe est privilégié. Il a un dos court et robuste, une encolure massive et sa grande élégance plaît. C'est vrai que c'est un cheval élégant, tu as des barbes, c'est un joli cheval. Pas pour dévaluer les autres, mais enfin c'est quand même un joli cheval. Il est ardent, mais calme, et son aptitude à apprendre et à mémoriser ce qu'on lui enseigne lui permet d'exécuter les airs les plus brillants. C'est vrai que c'est un cheval qui pige vite hein, et qui retient bien. Alors un gentilhomme de Ferrare en Italie du Nord, donc Federico Grizzone, fonde au XVIe siècle dans sa ville une académie équestre et forge une doctrine qui tente d'établir un pont entre l'équitation de la Grèce antique, en particulier à travers les traités de Xénophon et les exigences de la monte de guerre médiévale. Il essaye de réunir les deux bouts. Alors, Grisonne y enseigne non seulement l'équitation et l'extrême, mais également la danse et la natation. Ça faisait partie du pack des gentilshommes. Alors, il faut savoir que seule la noblesse était concernée.
Un petit peu comme à Versailles, à l'Académie.
Absolument, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, il doit donner l'impression que les différents airs qu'il demande à son cheval, y compris les plus difficiles, s'obtiennent dans la facilité et l'aisance. Un cheval élégant doit être monté par un cavalier élégant, et l'efficacité, surtout, doit aller de pair avec la beauté. Et ça serait peut-être aussi quelque chose que l'on pourrait garder en mémoire, c'est-à-dire que à cheval élégant, cavalier élégant, c'est quand même plus sympa. Alors la renommée de cette équitation nouvelle franchit rapidement les frontières de l'Italie et se répand en Europe, particulièrement en France et en Italie. Et en Allemagne, il faut dire que l'Italie était à la pointe à cette époque-là. Elle avait commencé sa renaissance un siècle plus tôt, donc elle avait déjà beaucoup cogité. Et elle attire évidemment de nombreux écuyers qui veulent s'initier à cette nouvelle doctrine qui est plus respectueuse du cheval. Là aussi, c'est un changement de mentalité. Bon. Et à la même époque, Pignatel, dont le nom francisé, alors en italien c'est Giambattista Pignatelli, et donc en français c'est Jean-Baptiste Pignatel, qui est né dans le premier quart du XVIe siècle, crée sa propre académie à Naples. Son enseignement, alors là il faut voir, s'est allé sur de longues périodes, et ses élèves suivaient une formation de 6 à 10 ans au minimum.
Il faut bien ça, hein, de toute façon.
Il faut bien ça, absolument, absolument. Alors plus respectueux du cheval que Federico Grizzone, qui effectivement avait encore des grands morts, des grands éperons, Pignatel invente un mors simplifié au canon large et donc plus doux pour la bouche du cheval et avec des branches de mors un petit peu moins longues. Et son autre innovation majeure, toujours utilisée aujourd'hui, je crois que tu l'utilises aussi, Jean-Claude, c'est l'emploi du cafesson pour débourrer les jeunes chevaux. Alors attention, le cafesson de l'époque était quand même beaucoup plus redoutable que le cafesson de maintenant. Mais au moins, le cheval n'était pas débourré avec un mors dans la bouche qui, lui, était beaucoup plus carnassier, on va dire.
Personnellement, je l'utilise pas, le cafesson.
Tu ne l'utilises pas? Voilà, non, mais ça fait licol.
Je suis pas contre. Oui, j'ai un licol, ce qu'on appelle les licols américains.
Oui.
Donc, qui sont plus doux qu'un cafesson, mais à la fois qui est un peu plus respecté par le cheval qu'un simple licol sur lequel il peut s'endormir.
Oui, d'accord. Oui, ça le maintient quand même un petit peu aux aguets.
Un petit peu, oui.
Alors, Grizzone introduit aussi l'usage des piliers, qui est quelque chose qui n'existait pas, toujours utilisé du reste, on voit à Vienne et à Saumur, et ailleurs aussi, mais enfin Vienne-Saumur, un dispositif qui permet au cheval de se mobiliser sur place sans avancer et de s'initier aux airs de la haute d'école, comme le piaffé, mais également les différents sauts d'école, comme la courbette, la ballotade, la croupade, la pesade, le terre-à-terre, et évidemment le saut le plus spectaculaire, qui est la cabriole. Voilà. Donc, ça a été quand même quelque chose qui a énormément évolué, et d'une certaine façon, ça a été une rupture avec le passé, et une rupture sur laquelle il était impossible de revenir. Mais on va s'accorder maintenant une pause musicale avec une tarentelle napolitaine par le groupe L'Arpaggietta. Les académies équestres italiennes du XVIe siècle avaient réussi la synthèse d'une équitation à la fois militaire et de manège, forgée à partir des pratiques empiriques du Moyen-Âge et des traités des auteurs anciens, particulièrement Xénophon, et que la Renaissance, on vient de le voir, avait redécouvert et perfectionné. Alors bien sûr, le cheval doit être plus efficace, mais également avoir de belles actions, beau dans ses airs, selon l'expression en usage. On dit un cheval se plaît dans ses airs ou est beau dans ses airs. Alors dans sa méthode, Antoine de Pluvinel approfondit le principe selon lequel le cheval ne doit pas être vaincu, mais convaincu. C'est-à-dire, il faut qu'il adhère. Et aux aides traditionnelles que sont le mors, le capson et l'éperon, Pluvinel conseille l'utilisation d'aides nouvelles, comme la voix qui encourage et apaise, il le dit. Et surtout, une chose qui aurait été impensable quelques décennies plus tôt, la caresse. Oh là là, caresser un cheval, et l'art de récompenser le cheval à propos. Donc on est vraiment dans un bouleversement intellectuel complet. Alors, on va faire un peu de connaissance avec Pluvinel. Il naît en milieu du XVIe siècle à Crest, dans l'actuel département de la Drôme. Voilà. Et vers l'âge de 10 ans, son père l'envoie à Naples, donc on l'a vu se former dans la fameuse académie fondée par Grizzone et quelques décennies plus tôt. Et il y restera pendant une dizaine d'années, donc on est tout à fait dans le cursus normal, sous la direction de Pignatel. Puis il rentre en France et reçoit de Henri IV la charge de premier écuyer. C'est un très bon cavalier, donc le roi Henri IV le charge d'être premier écuyer. Et il lui confie également le roi l'éducation équestre du dauphin qui deviendra Louis XIII. Et le but, c'est d'en faire vraiment un cavalier accompli. C'était important. Enfin, je veux dire, la noblesse se devait d'être bonne cavalière. Et il fonde également à Paris une académie équestre dans laquelle il enseigne les méthodes italiennes qu'il va progressivement perfectionner. Et c'est marrant. Ça me fait penser, tu me diras ce que tu en penses, Jean-Claude, ça me fait penser un petit peu à la trajectoire de François Boucher, qui à la fois
Bien sûr.
Voilà. Bien sûr. C'était, comment dirais-je, j'avais fait des méthodes, c'était investi avec la noblesse et la grande bourgeoisie, donc au 19e siècle, et en même temps fonde sa propre académie, qui était à la fois une académie, un cirque, etc., c'est-à-dire un spectacle total. Et là, je crois que tu peux dire deux ou trois choses là-dessus, sur cette espèce de cheval qui n'est plus le cheval militaire ou le cheval strictement utilitaire, mais qui est aussi un cheval danseur, un cheval artiste, un cheval dont les fonctions finalement ont un petit peu changé, puis un cheval plaisir aussi,
parce que c'est agréable. Bien sûr. Elles ont changé parce que après avec Boucher, on est quand même arrivé à un moment donné où Boucher était quand même très intéressé par les capacités du cheval, parce que lui pouvait faire ce qu'il avait envie de faire, alors que avant, quand c'était militaire, on lui demandait pas ce qu'il avait envie de faire, on lui imposait ce que on voulait qu'il fasse. Et donc ça évidemment, ça a créé un monde. Hein.
Ça a créé.
Et un petit mot par rapport à la caresse. Comme tu disais tout à l'heure, la caresse qui est arrivée à ce moment-là avec Pluvinel. Dans la caresse, il n'y a pas seulement le fait de caresser, qui peut être voilà, on ne sait pas si le cheval il aime à être caressé ou pas. Ça, on n'en sait rien dans l'action de la caresse. Par contre, dans l'intention et dans le calme et dans la sérénité et dans cet état affectif positif, aimant que peut avoir la personne qui caresse le cheval en est très conscient et c'est un scanner, il analyse l'humain. Donc c'est pas tellement le fait de caresser, donc la main qui fait gauche-droite sur un cheval, qui va faire en sorte que le cheval va être bien, mais c'est simplement l'intention et l'émotion, le calme et la sérénité qu'on va donner à ce moment-là, qui va évidemment apaiser le cheval et qui, en tous les cas, va lui donner envie d'être avec nous.
Tout à fait. Et c'est vrai que enfin, je crois que il n'y a pas une cavalière, un cavalier qui n'a pas expérimenté cette chose, puisque la caresse aussi, tu diras si je me trompe, Jean-Claude, on la donne parce que soi-même, on est dans un espèce de flux de contentement, de bonheur, quelque chose à marcher. Et est-ce que l'effet de la caresse ne vient pas déjà quand on a cette espèce de contentement?
Bien sûr,
de
c'est
plaisir.
Le début de la caresse.
C'est le début de
parce
la caresse.
Parce que la caresse, on peut très bien. On peut très bien caresser le cheval sans le toucher si on suit ce raisonnement-là. Le plus important, c'est ce temps calme, serein, en communion. C'est là où il est hypersensible, le cheval. C'est parce qu'en fait, le cheval, il se caresse pas les uns les autres, à part quand ils se font...
Oui, se groome, comme on dit.
Se groome. Là, oui, évidemment. Ça, c'est autre chose. C'est pas une caresse, c'est autre chose. Mais la caresse a son importance dans le sens où le cavalier ou la personne humaine, en tous les cas, se retrouve dans un autre état émotionnel. Et ça, c'est très important.
Absolument. Et on l'a expérimenté aussi plein de fois. Par exemple, un cheval qui commence, moi, je me souviens d'avoir pas mal monté d'Anglo-Arabes, qui sont des chevaux nerveusement fragiles. Formidables chevaux, mais nerveusement fragiles. Et quand je sentais que la moutarde commençait à monter, c'est-à-dire que le cheval commençait à avoir peur, ou la jument, en l'occurrence, commençait à avoir peur, une caresse le long de l'encolure, pratiquement depuis les oreilles jusqu'au garrot, sans rien dire, faisait que cette jument se calmait, pas exactement se calmer, prenait sur elle pour pas exploser, ce qui est, je trouvais, beaucoup plus fort finalement. Voilà, c'était pas ah, tu me caresses, tout va bien, gna gna gna, bisounours, c'était bon, j'ai toujours autant la pétoche, mais bon, allez, je vais faire un effort, je vais pas piler ou tourbillonner ou partir en coup de cul, etc.
Tout à fait, voilà. Il y a une double chose dans ce que tu dis, c'est que quand la personne caresse le cheval, elle est dans un état émotionnel calme et serein, et donc rassure le cheval. Comme le cheval est rassuré, le cheval, il se dit tout à coup, l'humain qui est sur moi, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un de fiable, puisque moi j'ai peur de telle chose, alors que lui, il est complètement détendu et il est complètement calme et serein. Ça, c'est un vrai dominant. C'est comme la vieille jument dans le troupeau, elle est hyper calme, elle est détendue, et c'est la dominante, c'est pas les talons qui sautent partout. On en avait déjà parlé de ça.
On en avait parlé, oui, absolument, ouais. Oui.
Donc le double sens de la caresse est très important.
Oui. Les talons dominants et la bande des jeunes capitaines qui sont en train de le lorgner en se disant, bon, pour l'instant, il est encore un peu costaud, mais au premier faux pas, tous dessus. Et...
Exactement.
Voilà. Et oui. Alors, ce qui est formidable aussi avec Pluvinel, enfin cette trajectoire de vie, il explique, là encore, qui est un langage très nouveau, que le cheval, doit être considéré comme un être sensible et intelligent. Donc là, voilà, mais intelligent. intelligent. Et encore, longtemps, on a dit non, cheval est bête. Enfin, ça, c'est sa mémoire qui tient lieu d'intelligence.
Là, on peut en parler, on peut faire une émission sur l'intelligence aussi.
Sur l'intelligence.
L'intelligence du cheval et l'intelligence de l'homme. Lequel est le plus intelligent est toujours une question humaine. Oui. Rarement une question de la nature.
Et est-ce que deux intelligences sont similaires? On peut être intelligent pour ceci, d'autres espèces intelligentes pour cela.
Exactement.
Après tout, je serais très, très embêté pour être, je sais pas, moi, une fouine ou un castor ou un poisson. Je crois que je me débrouillerais très mal.
Tout dépend de la définition qu'on donne au mot d'intelligence et c'est toujours l'homme qui donne la définition qu'il a envie de donner.
Absolument.
Non pas quelque chose d'exact et qui ne bouge pas.
Et alors, ce qu'il affirme aussi avec force, c'est que la psychologie du cheval, dans tous les cas, doit être prise en compte. C'est-à-dire que là, on ne doit pas la zapper. Il faut vraiment y faire attention. Alors, on va rencontrer un autre cheval qui est assez sympathique aussi, qui est le cheval Chaguilla. Alors, on se souvient tous de la date de 1789, c'est l'année de la Révolution française et la situation politique en Europe est dangereuse. Les puissances continentales nouent des alliances, désignent des ennemis, et dans chaque pays, une course aux armements s'engage. J'ai l'impression qu'on radote quand on dit ça. Hein. Et c'est dans ce contexte que l'empereur d'Autriche-Hongrie souhaite équiper sa cavalerie de chevaux vifs, hardis et endurants. Des chevaux en fait polyvalents, qui soient des chevaux de trait pour traîner les canons ou pour mener des chevaux de selle pour mener des charges impétueuses, voire l'un et l'autre pour le même animal. Et donc, c'est vraiment un défi qui est relevé par les étalonniers de l'empereur et qui ont l'idée de croiser des juments hongroises qui possèdent du sang arabe avec des étalons orientaux et essentiellement des étalons de Syrie, donc ce qu'on appelle des purs sangs arabes, puisque effectivement, moi, quand j'y étais allé, les étalons syriens sont un petit peu plus massifs que les étalons, par exemple, que l'on retrouve en Jordanie. Et ce sont des chevaux qui ont des membres secs, des canons courts, une démarche élastique et un grand sens de l'équilibre. Alors ça, c'est vrai, le Chaguilla, c'est vraiment un chat. Je crois que de mémoire de chevaux, on n'a jamais vu un Chaguilla se foutre par terre. Hein, ça y est, voilà. Par contre, c'est un des chevaux préférés des amateurs, évidemment, de courses d'endurance, parce qu'il a un pied très sûr, et un cheval donc aux immenses qualités, mais par contre à ne pas mettre en toutes les mains, et en effet sa gentillesse ne l'empêche pas d'avoir un caractère assez trempé. On ne peut pas parler du Chaguilla comme d'un mollasson, et celui qui voudrait aller jusqu'au rapport de force, alors ça c'est très très mauvais, parce que en règle générale il risquerait de terminer sa randonnée à pied et les fesses en compote, parce que monsieur Chaguilla est patient tout ce qu'on veut, mais quand on l'emmerde, il sait répondre.
Ce qui est une bonne chose.
Alors, le dicton de la semaine, ben justement, il est d'Antoine Pluvinel, donc on ne va pas abandonner le sujet. Je pense que ça va te plaire, Jean-Claude. Le dicton, c'est « La gentillesse est aux chevaux comme la fleur aux fruits, laquelle ôtée ne revient jamais.
» Oui, très bien, très bien. Très bien pour l'homme, il peut la retenir. Pour le cheval, il a une capacité de, comment dire, il n'est pas rancunier. Donc effectivement, on peut ne pas être gentil à certains moments parce que ça peut arriver, parce que voilà, on peut se laisser emporter. Mais d'un autre côté, le cheval, il n'en veut jamais.
Merci Jean-Claude, avec toi c'est toujours un grand bonheur. Alors nous arrivons au terme de cette émission. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis 10h sur CFM Villefranche de Rouergue. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles. Et bien sûr, un grand bravo
à nos chevaux.
Ciao, ciao.
Les chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, un grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Et souris, ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie.
que tu as perdue. Sans toi, tu ne croyais plus. Suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Sur la route du sel, d'aigle morte à Rhodes, en passant par Salmière, du Languedoc au Rouergue. Après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Millau, les Vézous, Salmiège, milieu du sel. Patrie de Béranger, de l'Andorre, capitale du Roer de Rhodes, entrée dans la légende de la route du sel. Entrée dans la légende de la route du sel.